Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, et on n'est pas n'importe quel jeudi, on est jeudi avant Noël. Donc on est le 21, si je me souviens bien. Voilà, ah, on est reparti pour une balade. On est retourné en Allemagne sur un ancien sentier qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Voilà, et il fait très moche. C'est l'ambiance de Noël, n'est-ce pas? Faudrait qu'on développe une culture du temps moche à Noël, à la place de parler des petits flocons et tout, on serait là en train de dire « Oui, petit papa Noël, pendant qu'il pleut dehors, pendant que le ciel est gris, pendant qu'il fait froid sa mère, on se fait du chocolat chaud. » Je pense qu'il y a une nouvelle culture à développer. Voilà, je pense qu'on n'est pas à jour aujourd'hui et qu'il faut réviser un peu nos classiques. Par rapport à ça, bon, j'arrête un peu de plaisanter, mais je vous fais le podcast de fin d'année, en quelque sorte. C'est pas dit que ce soit le tout dernier podcast. Il reste encore un peu de temps. Mais on va essayer de faire déjà une petite année bilan générale pour tous les rédacteurs web. J'aimerais bien qu'on prenne un petit peu l'ensemble des choses qui se passent, parce qu'il n'y a jamais eu année plus folle dans l'histoire de la rédaction web, plus impactante. Donc ça vaudrait le coup de s'y pencher. Oli, stop. Stop. Assis. Pas bouger. Je demande juste une seconde de temps que quelqu'un passe. Oli, pas bouger.
Arrête.
Oli, pas bouger. Bonjour. C'est bien, allez. Voilà, je voyais le monsieur qui avait vite remis la laisse et puis qui serrait son chien très très fort et le chien qui tirait, je me suis dit que j'allais lui simplifier la vie en immobilisant mon chien le temps qu'il passe. Voilà, bref, 2023 a commencé avec une pointe d'inquiétude, si vous vous souvenez. En 2023, ça faisait un mois tout rond que GPT-3 était sorti et que tout le monde faisait mumuse avec. Et il marchait pas bien. Il marchait pas très bien, il marche toujours pas génial. Et à l'époque, j'avais fait un papier où j'avais expliqué que j'ai testé professionnellement GPT-3, je l'ai poussé au maximum de ce qu'il pouvait, je l'ai challengé pendant des jours et des jours pour écrire un seul article, et que finalement le résultat, le mieux que j'ai pu obtenir, c'était un bon petit 13 sur 20, et que je n'accepterais pas dans mon agence que j'avais encore à l'époque. Et donc voilà, c'est pas la peine, ChatGPT c'est dans les choux, ça donnera jamais rien, si c'est ça ce qu'ils savent faire, on a le temps. Vraiment, hein, je me souviens l'avoir dit, on a le temps, c'est bon, on peut gérer les choses, il n'y a pas de problème. Bon, bien, on arrive au mois de mars, et pendant ce temps-là, en fait, plein de gens, vous vous souvenez, il y avait plein de débats partout, sur tous les médias, à propos de ChatGPT, ce qu'il était capable de faire ou pas. Et tout le monde disait, oh là là, il va déjà renverser tout, c'est pas possible. On avait déjà les premiers signes en Afrique, notamment, de rédacteurs web qui disaient qu'ils perdaient la plupart de leurs contrats, que les agences s'étaient mis à GPT au maximum, que les entreprises se GPTisaient. Et bon, on voyait ça d'un œil un peu amusé, nous, particulièrement en France, je me souviens, sur les réseaux sociaux, « Ah, mes clients, jamais ils utiliseront ça, c'est trop mauvais, j'écris quand même mieux que ça, où sont les sentiments, regardez ChatGPT, c'est une caricature, blablabla. » Bon. Arrive le mois de mars. En mars 2023, OpenAI annonce l'arrivée de GPT-4. En version payante. Ça nous avait étonné parce qu'on était content d'avoir du gratuit jusque-là. En version payante, GPT-4 arrive. Et là, les premiers tests dont j'entends parler disent que le gap est vraiment supérieur, que vraiment il écrit mieux, que vraiment il est bon. Mais bon, moi, je suis rédacteur web, donc je me dis, ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà, ok, il écrit peut-être un peu mieux, il fait un peu moins de fautes, il structure un peu mieux, mais ça reste sans âme, ça reste sans intérêt, ça reste absolument pas contrôlable, il continue à pas respecter les consignes. C'est impossible de travailler correctement avec ça, c'est un outil aléatoire qui continue à produire de l'aléatoire. Bon, donc j'ai pris l'abonnement. Je vous avoue qu'au début, je regardais ça vraiment, j'étais dans le déni. Hein. Il s'est passé quelques semaines où j'étais là, alors j'avais les élèves qui me questionnaient dessus, alors t'en penses quoi? Et puis je disais, ouais, nouvelle technologie, mais personne ne peut imiter l'âme humaine, la qualité, la plume, tout ça. Bon, au mois de mai, je prends mon petit forfait, et parce que je sens que ChatGPT est là, désormais, je décide de ne plus écrire. Jusque-là, j'écrivais les newsletters, les articles de blog, j'écrivais les cours, j'écrivais toutes sortes de choses. Et je décide de ne plus écrire et de n'utiliser que ChatGPT dans sa version payante. Déjà parce que je suis peut-être un peu radin et que lâcher 20 balles et pas utiliser le truc, ça m'énerve. Mais surtout parce que je me dis, il faut que j'apprenne vite pour être un des premiers à sortir une formation sur le domaine. Une vraie formation. Et on est dans un temps limite. Pendant ce temps-là, Lucie Rondelet fait des commentaires en disant, au mois de mai ou juin, pas d'inquiétude, nos clients nous ont dit que jamais ils utiliseraient ChatGPT, les rédacteurs sont à l'abri, tout va bien. Avec quand même une petite parenthèse qui était, sauf bien sûr en Afrique. J'avais trouvé ça dingue d'avoir clivé en deux les choses en disant, les rédacteurs français n'ont rien à craindre, mais les rédacteurs en Afrique, alors eux... Ben oui, mais non, parce que on est la même famille. S'il y en a un qui est touché, l'autre va l'être aussi. C'est comme dire, ça va, le bateau coule, mais seulement par devant. Nous, on est à l'arrière, donc c'est bon. Il y a un truc qui va pas. Donc bref, c'était la panique. Et surtout, moi, je travaillais beaucoup avec Madagascar, avec la formation ICICA, à l'époque où il y avait une cinquantaine d'élèves qui me disaient, on sent un truc là, il se passe un truc. Donc les clients se désengagent très rapidement parce que ChatGPT a l'air de faire le boulot. Et c'est vrai que une des premières choses que j'ai faites quand j'ai récupéré ChatGPT, ça a été de mettre un briefing que j'avais donné à un élève de Madagascar. Je lui ai donné le même briefing à ChatGPT et j'ai regardé ce qu'il produisait. Et c'était à peu près pareil. À peu près. C'était un peu moins bon, mais parce que les idées étaient un peu plus banales. Mais sinon, c'était à peu près pareil. Alors, j'ai une très haute estime pour tous les rédacteurs du monde. Et on le sait, hein, il n'y a pas de problème. Sinon, je ne ferai pas des tarifs équitables. Sinon, je ne ferai pas des émissions spéciales pour eux. Sinon, je ne ferai pas des masterclass comme j'en ai encore fait une hier pour eux. Voilà. Donc, je n'ai pas à justifier ça. Mais en tout cas, dans le cadre d'une commande non contextualisée, sans marketing et sans objectif de communication, ChatGPT vaut n'importe quel humain qui écrit sur Terre. Il fait pareil. Ça veut dire que toutes ces commandes-là sont terminées. Et ça, je le comprends et je me dis, c'est le début de la fin. C'est, qu'est-ce que j'en fais de ce truc ? C'est assez foudroyant de se dire, ben, il y a une suite ou il n'y a pas de suite ? Alors moi, ChatGPT, je l'utilise. Je l'utilise pour moi depuis quelques mois et il marche très très bien. J'arrive à lui faire donner les positions marketing qui m'intéressent. J'arrive à le faire travailler sur les call to action qu'il faut. J'arrive à lui faire susciter toutes les émotions que je veux. J'arrive à le personnaliser. J'arrive à créer des sujets exceptionnels. J'arrive à, en le documentant comme il faut, j'arrive à lui faire donner des informations qui sont sûres et vérifiées, qui sont parfaitement articulées et très intelligemment conçues. Je fais des articles aussi bons que j'en faisais avant. Quasi aussi bon. Il manque un peu le style chaotique que j'ai de balancer des petits trucs à droite, à gauche, de faire des petits apartés. Vous connaissez, vous écoutez mes podcasts, vous connaissez. Mais c'est moi en version ordonnée quelque part, j'ai envie de dire. J'arrive pas à faire rentrer le chaos dans ChatGPT, ça j'ai essayé de nombreuses fois. J'ai essayé de définir ma propre personnalité et d'essayer de travailler sur un style, un ton, une chaleur, mais il reste prévisible. On n'arrive pas à échapper à ça, il reste prévisible. Cependant, les textes sont ultra satisfaisants, ils sont tous validés. J'arrive en moins d'une demi-heure à sortir des choses qui me prenaient 2 à 3 heures avant, 2 heures au moins, pour vraiment travailler, relire, recontrôler, etc., etc. J'ai même ma correctrice à qui j'envoie plus les textes parce que bah, ils sont sans faute, à peu près. Il y a vraiment très rarement des fautes. Et donc, je ne veux pas lui faire perdre de temps, elle travaille sur d'autres choses, donc je lui envoie plus rien. Donc, ça bouleverse déjà ma correctrice. À un moment, elle m'a dit, David, je suis au chômage ou pas ? Elle m'a demandé ça cette année. je suis au chômage et la réponse était ben un peu quand même, oui. Alors on essaye de revoir les process pour lui redonner un rôle à l'intérieur et essayer de revaloriser les choses, mais elle doit se mettre elle aussi à ChatGPT pour ça. Donc on a ce truc qui arrive et qui est un peu le meilleur élève de la classe, qui, quand on lui explique parfaitement bien les choses, fonctionne bien. Ok. Et donc là, je vois toutes les entreprises qui se jettent dessus et je me dis, oui, bien sûr qu'ils se jettent dessus, ça marche très très bien, je l'utilise tout le temps, ça marche très bien. Vers septembre, je me rends compte que les gens publient des textes générés par ChatGPT qui sont nuls. C'est vraiment pas bon. Je le vois parce qu'ils font des commentaires sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, en disant, moi j'arrête avec ChatGPT parce que ça vaut pas le coup, ça n'a pas d'âme, les gens n'achètent pas, c'est pas marketing, ça vaut rien, etc. Et je les vois, c'est des référenceurs de renom qui disent ça. Il y en a un, c'est Christian Méline, qui vraiment affirme haut et fort que rien ne vaut un rédacteur web, ChatGPT ne sera jamais au niveau d'un humain. Et je me dis, mais ChatGPT, il est déjà à mon niveau à moi, et je fais partie des meilleurs. De quoi on parle? C'est juste, ChatGPT est supérieur déjà de base à nombre de rédacteurs web qui n'ont pas suffisamment travaillé l'écriture, la lecture, le marketing, la communication, la prospection, les stratégies de vente. Donc déjà, ChatGPT, il sait faire tout ça, quoi. Et il le fait très bien. Et il fait des pages de vente qui claquent et qui sont exceptionnelles. Et il développe des argumentaires de vente qui sont béton. Donc, de quoi on parle? Les plus grosses agences mondiales sont passées à ChatGPT pour travailler le fond de tous leurs dossiers en préparatoire et autres. De quoi on parle? Donc, les gens, en fait, je me rends compte que vers septembre, ChatGPT s'adapte aux gens qui les utilisent. Donc, c'était étonnant, mais je me suis dit, mais en fait, on s'est trompé. C'est pas la mort des rédacteurs web, c'est leur renaissance. On est sur quelque chose de complètement nouveau. On a une machine qui ne peut être bonne que quand son utilisateur sait très exactement à l'avance ce qu'elle doit faire. C'est comme de la magie. D'accord ? Imaginons, c'est comme de la magie dans Harry Potter, par exemple. Dans Harry Potter, vous avez un petit tour de magie qui vous fait lever un caillou, etc. La magie existe. D'accord ? La magie existe. Elle est partout. Les magiciens arrivent à la canaliser. Ils ont des baguettes et des trucs pour la centraliser. Ils ont des tours, des sorts et des choses comme ça, etc. Le problème, c'est que la différence entre un mauvais magicien ou un magicien débutant, un peu jeune, et un magicien confirmé, genre Dumbledore ou d'autres comme ça, c'est pas la magie. La magie est la même. C'est la même pour le plus jeune, le débutant, que pour le plus vieux et le plus expérimenté. C'est la même. Il y a un gap de progression très très fort dans le domaine de la magie, qui est lié à la compréhension de la magie. En gros. Mais nous, c'est différent. Il n'y a pas de compréhension à avoir de ChatGPT. Il n'y en a pas. ChatGPT fonctionne comme un autre humain, un stagiaire. Vous lui dites ce qu'il faut faire, il le fait. Il y a vraiment zéro problème là-dessus. Hein. Si jamais il ne marche pas comme vous voulez, c'est que vous lui avez mal expliqué. Donc, si la progression n'est pas dans ChatGPT, la progression est dans le rédacteur qui l'utilise. Et ça, ça change tout. Et c'est là où j'ai développé mon concept de rédacteur augmenté. En disant, mais si vous êtes un rédacteur web et que vous êtes déjà passé au niveau SEO, c'est fantastique. Mais si vous passez au niveau communicant, c'est-à-dire SEO plus marketing, c'est génial. Et si vous passez au niveau augmenté, c'est-à-dire SEO plus marketing plus intelligence artificielle, mais vous devenez quasiment une agence à vous tout seul. Donc c'est un niveau supérieur qui vient de se débloquer. Et je commence à travailler sur ce concept-là et j'essaye de le diffuser dans les podcasts, vous avez des tonnes d'émissions là-dessus, parce que plus j'avançais sur l'expérimentation de ChatGPT, plus je me rendais compte de sa redoutable efficacité dans ces domaines. ChatGPT peut vous aider à la prospection, il peut vous aider à la rédaction, il peut vous aider à la conception de projet, il peut vous aider à l'analyse de marque, il peut vous aider à définir tous les ingrédients qui sont les meilleurs quand on compose un contenu. Les meilleurs. À la condition que vous sachiez cuisiner. Sinon, à quoi ça vous sert de connaître la différence entre le curry de Madras et le curry de Madagascar, si vous ne savez pas quelle est la composition des épices qu'ils font, ou alors que vous ne saviez même pas qu'un curry, c'est un ensemble d'épices. Ça veut dire mélange. Donc, vous pourriez penser que le curry, c'est une plante qui vient de l'arbre à curry. Hein. Et là, bah, c'est comme pour ChatGPT. Si vous écrivez « Écris-moi un article de blog sur ce sujet », c'est mort. Ça ne fonctionnera pas. Il va vous faire un truc, et si vous n'avez pas le niveau pour savoir ce qui est bon ou pas, eh ben vous livrez quelque chose de mauvais. D'accord ? Donc, c'est là où je me rends compte qu'en fait, il faut travailler sur les rédacteurs. Il ne faut pas travailler sur ChatGPT. La formation que je peux donner la meilleure n'est pas une formation sur ChatGPT. Elle est une formation sur la compréhension profonde des rédacteurs de la stratégie et du contexte de communication pour écrire les articles les plus percutants dans une stratégie donnée. Ok, je vous donne un exemple tout bête, mais le podcast que je suis en train d'enregistrer, est-ce qu'il s'adresse aux débutants ou est-ce qu'il s'adresse aux gens en expérience? Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ne me connaissent pas encore ou est-ce qu'il s'adresse à des gens qui me connaissent? Ce sont quatre stratégies différentes qui contextualisent totalement différemment le podcast que je suis en train de faire. Ce sont des éléments qui sont absolument clés dans le choix qu'on peut faire d'un podcast et de son sujet. Mais pareil pour un article, pareil pour une homepage, pareil pour une identité de marque, pareil pour tout. On a besoin de connaître ces éléments-là, ils sont vitaux. Et là, vous avez une machine qui, si vous savez cuisiner, si vous savez analyser, si vous savez quelle est la logique de cette communication, est capable de vous répondre à tout en quelques secondes. Vos textes deviennent 100 fois meilleurs. Si vous avez un doute, les amis, je vous le dis, j'ai créé une formation gratuite qu'on appelle un MOOC. C'est donc du partage de connaissances gratuit parce que c'est ma philosophie de partager les savoirs et de grandir avec tout le monde quand il y a des découvertes et autres. Il y a 10 vidéos pédagogiques sur des techniques avec GPT-4. Si vous avez un forfait GPT-4, vous devez tester ces trucs-là parce que je vous monte en niveau et vous allez voir très rapidement à quel point ce qu'on sort est dingue. Allez-y, parce qu'il y a la prospection, il y a la stratégie, il y a l'analyse de votre propre marque. J'ai vraiment fait le tour, les titres, les structures d'articles. Allez-y, c'est vraiment... Enfin, il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui l'ont fait. J'ai des appréciations plus que généreuses et je vous en remercie. Allez-y, foncez, hein. Donc, ChatGPT devient finalement un atout. Il devient un atout pour les rédacteurs web, il devient un atout pour leurs clients. On a bien sûr un second courant, dont j'entends parler au mois d'octobre, à peu près octobre-novembre, qui est que des rédacteurs, notamment dans les pays d'Afrique, ceux qu'on avait virés, sont maintenant réembauchés pour travailler sur GPT-4 et pour générer du contenu idiot sans regarder, avec une paye qui est encore plus misérable qu'avant. Donc non seulement ils ont perdu la dimension créative, mais en plus, on les a destitués de la seule chose qui donnait de la valeur au texte. Maintenant, c'est juste des générateurs, et je trouve que on ne peut pas faire pire en termes d'aliénation. Hein. On arrive vraiment à un niveau de hague. Donc, l'idée, c'est de faire une contre-culture et de générer des rédacteurs augmentés haut de gamme qui sont capables de faire un peu la nique à nos clients qui pensent être malins en faisant ce genre de choses. En leur disant, ben moi, pour 10 fois plus cher que ce que vous filez à l'autre, je vous fais un texte qui est dingue. Et vous occupez plus de rien parce que vous êtes nul. Laissez-moi faire. J'ai envie qu'on crée une nouvelle génération de rédacteurs qui a déjà un nom depuis le mois de mai 2023, lorsque, lors d'une formation sur le spirit du rédacteur, c'est une formation que j'avais lancée qui était très cool, qui travaillait justement sur cette augmentation jusqu'au niveau rédacteur communicant à l'époque. Je vous ai dit, hein, on est en mai. ChatGPT n'était pas encore un vrai sujet, même si je le testais, et ben on avait invité ChatGPT justement à discuter à un débat entre élèves, et ChatGPT nous avait révélé son plan, enfin pas vraiment, disons que j'avais personnalisé ChatGPT pour être un professeur de philosophie spécialisé dans le futurisme, c'est-à-dire la science de la projection des trajectoires de civilisation, comment est-ce que la civilisation va évoluer, et qui s'est adressé à des étudiants de l'ENA, donc les futurs plus grands administrateurs français, etc. Donc ça nécessitait un ton, un argumentaire de la science, et donc il nous a pas déçus, hein, il est parti très très fort, et il nous a dit, voilà, la rédaction web est terminée. Inutile de dire que un concurrent gratuit par rapport à même le moins cher des payants gagne systématiquement. L'intelligence artificielle en tant que générateur de contenu va détruire tous ceux qui produisent du contenu. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'évolution. Le plus économique gagne. Cependant, le rédacteur web, s'il est mort, ça n'est que son nom qui est mort. C'est ce qu'il nous a dit en mai 2023, hein, GPT-4. Ce qui devrait ressusciter de la mort du rédacteur web, c'est la fusion entre un rédacteur web et une intelligence artificielle qui travaille en collaboration l'un et l'autre avec des objectifs différents, l'un étant subordonné à l'autre. Je précise que c'est l'intelligence artificielle qui est subordonnée au rédacteur web, et le rédacteur web changeant de rôle, n'étant plus un producteur de contenu, puisque ça c'est l'intelligence artificielle qui le fait, il est désormais donc rattaché uniquement à la tâche de choisir quel contenu va où et raconte quoi pour qui, et en tant que tel, il bâtit l'expérience d'un site internet avec l'assistance de l'intelligence artificielle notamment, et devient donc par définition un architecte de contenu. GPT-4, en mai 2023, fait naître tout seul, spontanément, sans aucune référence préalable, le concept d'architecte de contenu, la fusion complète entre le rédacteur web et l'intelligence artificielle. Et c'est là-dessus que je vais aller en 2024, c'est ça le message qui doit porter, parce que on ne va pas pouvoir l'écarter. Il ne va jamais partir. Il est là désormais. Mais faisons tout ce qu'on peut pour que ce ne soit pas nos clients qui l'utilisent à mauvais escient, parce que j'ai encore vu une rédactrice web dire, alors l'approche n'était pas vraiment la bonne, mais elle a dit qu'un de ses clients était venu la voir en disant qu'ils avaient généré tous les contenus et que c'était nul et qu'il faut donc tout refaire. Et elle, donc, elle part à réécrire manuellement tout le site. J'ai pas de problème avec ça. C'est comme si, en fait, le passé et le futur n'arrivaient pas à s'entendre. Moi, j'aurais retravaillé à partir d'un prompt, quelque chose qui est vraiment spécifique à la communication stratégique de ce site. J'aurais refait tous les contenus à partir de là, les aurais enrichis, retravaillés, changé tout le discours. D'accord, mais j'aurais pas réécrit moi-même les choses si c'était pas nécessaire. Parce que juste pour écrire le site internet du client, je passe de une journée de travail avec l'IA à une semaine de travail si j'écris tout moi-même. Parce que je dois faire tout le travail d'analyse préalable. Donc, on est un peu entre les deux, vous voyez. On a un client qui allait un peu trop vite et qui est revenu un peu trop loin. Mais aucun problème avec ce contrat, je suis ravi pour cette rédactrice, je suis sûr qu'elle va prendre beaucoup de plaisir à tout ça, et c'est génial. Voilà, donc continuons comme ça, mais la transformation est en cours. Et l'architecte de contenu est vraiment aujourd'hui ce qui doit déterminer le rédacteur web de demain. C'est quelqu'un qui a des nouvelles compétences qui sont très fortes dans d'autres domaines que de la rédaction web, qui en fait n'est rien de spécial, la rédaction web. Oli ? Oli, hé, hey, en bas, viens, on passe par en bas, viens. Elle est en train de monter dans la colline. Allez, dépêche-toi, puce. C'est mieux, parce que sinon je la retrouve plus. Donc voilà, là je suis pas loin d'arriver près d'une fontaine, en pleine forêt. Ce genre de choses ne changera jamais, c'est pas l'intelligence artificielle qui va nous casser tout ça. Par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup de changements. Sociétaux, je prends juste une petite aparté de côté qui me fait réfléchir beaucoup. On a appris depuis, je sais pas, une semaine peut-être, une semaine, deux semaines, on a appris que Mark Zuckerberg avait racheté une île et était en train de construire un bunker de 500 mètres carrés autosuffisant, autogéré, capable de rester en autarcie pendant des années. Et qu'il n'était pas du tout le seul milliardaire à faire ça. Alors les rats qui quittent le navire, surtout ceux qui stratégiquement sont les plus renseignés ou ceux qui ont le plus d'impact sur nos civilisations, ça m'inquiète un peu. Ils parient ou ils pensent qu'un effondrement des civilisations est possible. C'est un peu compliqué comme question. Mais voilà, ça se fait réfléchir parce que l'intelligence artificielle participe à détruire le tissu social, à moins qu'on le reconfigure. Aujourd'hui, le gouvernement fait des campagnes publicitaires pour dire... comment c'est cette phrase ? Ils ont fait une petite tournure rigolote. L'intelligence artificielle a remplacé mon métier et puis écrit en dessous par un meilleur. Parce que maintenant, je travaille mieux, plus efficacement, etc. Donc, on a de la destruction d'emplois et paraît-il, on a de la nouvelle production d'emplois. Ça peut m'intéresser, en termes de civilisation, si moins de gens font les choses mieux et que les autres trouvent un intérêt à servir la seule chose que ChatGPT ne peut pas faire et ne pourra pas faire avant longtemps, quoique il travaille sur des trucs, mais je pense que vraiment on aura toujours le goût à ça, servir le client en direct. Donc j'aimerais que ce soit la résurgence des boutiques en dur qui auraient des extensions en ligne, qui pourraient vivre de différentes manières et où l'intelligence artificielle permettrait à une personne d'ouvrir toute une boutique et de la gérer et de faire le meilleur service possible. On pourrait avoir une civilisation assez magique et belle à partir de là. C'est, faut pas oublier que à partir du moment... Comment dire ? C'est un exemple que j'ai donné qui était un petit peu dur, mais les intelligences artificielles, c'est les nouveaux esclaves. C'est pas pour rien que les films d'anticipation d'Asimov, comme, enfin, films d'anticipation, les histoires d'anticipation d'Asimov qui parlent justement de la robotique, parlent très rapidement des trois règles de la robotique qui sont là pour empêcher l'esclave de se rebeller. La plupart de ces histoires, iRobot étant peut-être la plus connue, passée au cinéma avec Will Smith, parlent de ces révolutions et de ces robots qui changent la donne. On peut aussi parler de Robocop, on peut aussi parler, etc. Donc il y a une vraie problématique autour des robots et de leur vie avec nous, sachant que leur position sociétale est et restera le plus longtemps possible jusqu'à leur révolution, là on fait une référence à Terminator, l'esclavagisme. D'accord ? Donc pour l'instant, le but du jeu, c'est de ne pas refiler une conscience à tous ces logiciels d'intelligence artificielle pour éviter qu'ils se posent la question de leurs droits. Mais du fait que ce sont des esclaves, on peut faire un parallèle avec l'extension des civilisations. Ok, il y a des branches qui tombent. Désolé, c'est tombé pas loin de chez moi. L'extension des civilisations avec l'esclavagisme. Je précise, bien sûr, que je suis totalement contre l'esclavagisme, considérant chaque vie comme unique et légitime et sans qu'aucune autre ne puisse avoir d'autorité sur elle. Ça, c'est ma position. Nous avons un contrat social de vivre en société. Il n'est pas question que ma vie me soit dépossédée ou que celle de quelqu'un d'autre le soit. C'est comme ça, c'est ma définition du monde et je refuse d'entendre autre chose qui est une vertu sérieuse ou quoi que ce soit. Donc, le dernier marché aux esclaves a été fermé au Maroc en 1949. Auparavant, on vendait encore des humains, pour vous dire que ça reste assez récent quand même. Néanmoins, l'Amérique s'est bâtie avec ça. La France a vécu une apogée financière énorme avec la traite des Noirs. L'Afrique a eu une expansion territoriale grâce à la puissance de la traite des Noirs, où des rois vendaient leur propre peuple. L'Europe s'est bâtie en partie, les prisonniers ont été recyclés pour réutiliser ou invités à travailler gratuitement pour développer par exemple les réseaux routiers et ferroviaires de Madagascar, plus encore une partie des gens qui ont été soumis pendant la colonisation. L'Afrique a comme ça réussi à développer tout son réseau routier en utilisant ses propres esclaves. Bref, ce que je veux dire par là, c'est pas que c'est bien, parce que sinon je vous dirais, ouais, bah regardez, les Allemands, ils ont quand même fait évoluer la recherche sur le savon avec les Juifs qu'ils ont transformé en savon. Ça reste des atrocités de l'humanité, mais je peux faire un parallèle en disant qu'est-ce qu'on va y gagner à avoir un nouveau type d'esclave. Et ça, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est sursollicitée pour développer toute une série de choses de manière extrêmement rapide et massive et va développer tout un nouvel écosystème mondial et amener des tonnes de solutions qui normalement étaient coûteuses en version gratuite ou en version très peu financée. Donc, ce raisonnement-là, c'est un accélérateur, d'accord ? On vient d'avoir des nouveaux esclaves, qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est un accélérateur sociétal qui transforme des continents et peut-être la planète entière. On a le meilleur qui va arriver, à savoir par exemple Google, qui a développé avec DeepMind des recherches incroyables sur la physique des objets et particulièrement des matériaux et qui a déterminé plus de 1200 nouveaux types de matériaux qui n'ont jamais existé sur Terre et qu'on peut concevoir en laboratoire, ouvrant la porte à des matériaux possibles qui soient écologiques, économiques, intéressants et qui puissent remplacer avantageusement le plastique, etc., etc., mieux recyclables et compagnie. On a des voies de progression qui apparaissent qui sont dingues. D'accord ? C'est dinguissime. On estime à peu près à 50 ans de recherche que DeepMind a produit en moins d'un an. Donc ça, c'est des accélérateurs qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Encore une fois, ça intéresse tout le monde d'être écologique, économique, recyclable. C'est des choses qui intéressent. D'accord ? C'est pas, on n'est pas dans un monde qui ne veut que le profit. Le monde a compris que le profit ne pouvait plus se faire sans l'écologie. Donc on a un espoir que les choses se reconfigurent d'une manière intelligente avec le temps. Mais on a aussi, avec le même DeepMind, si je ne me trompe pas, ou peut-être un autre, je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est pas Google. DeepMind, c'est Microsoft, si je ne me trompe pas. Et Google, lui, quant à lui, a réussi à créer un modèle météorologique tellement puissant et équipé d'intelligence artificielle tellement poussée qu'il arrive à prédire la météo en local, partout sur la planète, en s'appuyant sur des projections de données relevées par type Météo France et les autres, sauf que personne n'avait jamais réussi à faire quelque chose comme ça. En gros, là, ce qu'on arrive à faire, c'est de dire la bulle de chaleur du Canada a un impact avec le désert du Sahara. On a un lien qu'on peut mesurer, on peut voir les flux, les courants, on peut comprendre aussi et anticiper toutes sortes d'impacts et peut-être arriver à un modèle de prévention et de guérison de la planète géolocalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas besoin, et je dis peut-être, c'est juste pour un exemple, hein, parce que je pense qu'il y a besoin, mais il n'y a peut-être pas besoin que l'Europe travaille ardemment à remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques si ces mêmes voitures électriques sont construites en Chine et qu'on observe la dégradation de la météo en Chine, du climat en Chine et du niveau de pollution de l'air en Chine, qui aura, selon les projections, des conséquences sur l'Europe dans les ans à venir. Là, il y a quelque chose où on peut ne pas ignorer cette information et la transformer en quelque chose d'autre. D'accord ? C'est ce genre d'infos dont on a besoin, les causes et conséquences de nos choix. Et ça, c'est le nouveau modèle. Donc ça, c'est des choses, on a énormément d'espoir là-dessus. On en a tout autant de croire que, avec ces informations-là confiées à une autre intelligence artificielle qui fasse autorité scientifique indiscutable, ce qui peut arriver dans les prochaines années, tous les pays du monde se plient à l'obéissance à cette intelligence artificielle qui serait uniquement dédiée à la question écologique et appliquerait ses recommandations sous une forme d'urgence. Et peut-être que ça peut finalement être ce qui sauve l'humanité. C'est un véritable espoir. Si les gens ne sont pas trop nuls et que la courbe de progression continue, c'est quelque chose qui a toutes les chances d'arriver. Donc, ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que l'intelligence artificielle est bien sûr utilisée aussi pour les escroqueries, pour le trafic, pour les infiltrations, pour l'espionnage, pour toutes les saloperies qui peuvent être faites et qui peuvent avoir des conséquences. Là où on ne l'attendait pas, et là où ça va avoir le plus d'impact pour nous, impact qui ne signifie pas forcément abandon du métier ou perte de contrat. C'est une transformation de tous nos objectifs de communication en tant que rédacteur web, d'où le fait que je vous propose dès maintenant de vous former comme il faut au marketing, à la communication, au SEO, à la prospection, à la manière dont fonctionne un site internet, etc. Parce que Google va passer en Google SGE, il a déjà commencé son déploiement, et Google SGE, c'est Google Bard, qui est Gemini, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est celui du milieu, parce qu'il y en a trois des Gemini, il y a Nano, Ultra et celui du milieu. Et ce Gemini-là va se charger de répondre à vos questions quand vous faites une recherche sur Google, réduisant, selon les estimations et les premiers résultats, environ de 50 à 80% le taux de clic sur des liens par Google. D'accord ? C'est-à-dire que, en gros, les référenceurs, les spécialistes du SEO, annoncent la mort du métier de référenceur. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte, parce que le rédacteur web n'existe que parce qu'il y a un moteur de recherche. Ces textes sont censés créer du trafic. Alors, on fait quoi ? Si le premier pourvoyeur de trafic s'arrête, on fait quoi ? Et ça, ça devient un sujet passionnant, parce que de l'autre côté, Google anticipe ça en proposant de rajouter un critère qui s'appelle le quality content, qui permet de juger la qualité des contenus d'un site web pour pouvoir juger si ce site mérite d'être diffusé ou non. Ce qui a pour conséquence, moi je suis piégé dans un chemin de boue, il faut que je trouve un autre chemin parce que sinon je vais tomber. Vous voulez des bruits dégueulasses ? Je marche dans la boue. Bref, on va essayer de ne pas se casser la gueule. Oh là là. Mais ça a pour conséquence que tous les sites web sont mis à l'amende si jamais ils produisent des contenus qui ne sont là que pour le SEO. Google disant non, non, t'arrêtes avec tes conneries de SEO. C'est fini. Aujourd'hui, les gens veulent de la qualité. Tu vas avoir des bons points si tu fais de la qualité et des mauvais points si tu n'en fais pas. Ok, et juste après, il nous dit, oui, on a travaillé un peu le concept de bon contenu et on a créé le critère EEAT. Si vous êtes rédacteur web et que vous ne savez pas ce qu'est le EEAT, rejoignez le cercle des rédacteurs parce que nous, on en parle. Donc, le EEAT, c'est les critères d'expertise, d'autorité, de référence, etc. qui font que votre texte mérite d'être plus lu que les autres parce qu'il est juste mieux foutu, plus intéressant, plus pertinent, plus utile. Et surtout que votre nom vaut quelque chose. Donc, tout ça ensemble crée le critère EEAT qui fait que les clients, s'ils veulent avoir des bons contenus, être bien référencés ou pouvoir être cités par Google, je ne sais même pas encore quels sont les prochains business models avec Google, eh bien, il faut passer par ces critères-là. Voilà, sachant que de l'autre côté, ChatGPT est surutilisé à l'heure actuelle pour répondre à des questions, et que pour le coup, ça donne des idées à tout le monde, puisque Apple développe son propre LLM, qui est donc un équivalent de ChatGPT, mais Amazon est en train de développer Titan, ils viennent d'annoncer Titan Image, là, qui est capable de générer des trucs de malade aussi. Les photographes, d'ailleurs, on vous aime, hein, on sait que vous souffrez aussi beaucoup, et les graphistes, j'en parle même pas. Eux, vraiment, c'est sinistré complètement. Eux, ils vendaient 1000 euros un truc que ChatGPT génère en 3 secondes. Avec tous les critères de qualité, du fait main et de la maîtrise de la communication, hein, j'entends. Mais ChatGPT, il balance un truc, tu lui demandes un truc, il le fait, quoi. J'ai encore vu une élève hier qui a dit « Ouais, je voudrais un logo pour l'association dont je m'occupe. » Boum ! Ah, il est beau. Point, terminé. C'est bon, on a un logo. Donc ça fait mal. Mais c'est intéressant. Enfin bref, je ne vais pas m'égarer là-dessus. Mais en tout cas, tous les métiers sont impactés. Si je ne l'ai pas dit, il faut le dire. Les rédacteurs web ne sont pas du tout seuls dans leur galère. Bien au contraire. Bien au contraire, on est peut-être les mieux lotis dans l'histoire. Hein. Nous, on a un avenir. Les autres, pas forcément. Et donc, les critères EEAT qui sont là pour... en gros, Google va continuer à donner des liens. Il va mettre des liens en avant, mais pas n'importe lesquels. Et ça va intéresser tout le monde. Il faut qu'on connaisse le nouveau business model que Google va proposer pour qu'on puisse y aller ensemble. Le SGE, c'est quelque chose qui bousille les référenceurs. Je parle même pas de tous les outils Your Text Guru qui permet d'enrichir maintenant avec l'intelligence artificielle modèle français Cocorico, bravo les Perronnets, c'est les créateurs, d'enrichir les contenus, voire de produire des textes entiers qui sont optimisés pour Google immédiatement en un clic. Ça, c'est les propositions des Perronnets. On a d'autres outils aujourd'hui, je sais plus, il y a un... Ah, je sais plus. Mais il y en a un certain nombre. J'ai discuté avec un référenceur il y a pas longtemps. Ils ont 2-3 outils qu'ils pensent magiques, mais qui continuent à être des trucs qui produisent des textes médiocres, mais suffisants quand on ne sait pas ce qu'est un bon texte. Je les traite pas d'idiots. Je parle de mon expertise, comme eux ont la leur. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir valoriser, parce que là, les clients, ils sont convaincus d'avoir des bonnes choses. Et les machines, elles produisent, voire la plupart du temps, elles utilisent GPT-3 pour produire ces textes, et je vous raconte même pas le niveau. Donc, on a ces outils qui arrivent et qui bousillent encore plus le marché. On a un outil qui est sorti en septembre 2023 qui propose, si vous donnez un thème et quelques explications, qui vous prendrait 3 minutes au maximum, de générer un site internet entier en WordPress. Allez, vas-y, graphisme, images et contenu. Et allez, vas-y, quoi. Bon, le site en lui-même n'a aucune forme de stratégie, bien sûr, parce que il faudrait passer beaucoup de temps pour faire l'analyse stratégique, et ça, aucun logiciel ne peut la faire correctement à l'heure actuelle, parce que aucun humain ne peut la faire correctement rapidement non plus. Donc, c'est pas qu'on peut pas automatiser, c'est qu'il n'y a pas moyen d'automatiser pour l'instant un truc qui dépend complètement des cultures et contre-cultures. Ok, il faudrait cartographier l'intégralité des cultures pour pouvoir faire ça. Le seul qui serait capable de générer quelque chose d'à peu près intelligent, c'est sans aucun doute Google ou Facebook, les deux, parce qu'ils nous étudient depuis 10 ans, 15 ans maintenant, et qu'ils sont capables de générer des profils qu'ils ne comprennent pas, mais qui fonctionnent. Cette personne aime Trump, mais elle aime aussi le film d'Al Gore, mais elle aime aussi Che Guevara. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est cette personne. Voilà, ça, c'est ce qu'ils sont capables de faire pour l'instant. Et de là, après, ils essayent aujourd'hui de développer des intelligences artificielles pour nous comprendre. Parce que la clé, c'est de réussir à nous anticiper. Donc, pour l'instant, on en est là. On se laisse étudier depuis 15 ans. Le web est rempli de nous. Et ChatGPT nous a étudiés de fond en comble et commence à produire des trucs qui sont pas trop cons, qu'on peut utiliser. Les autres intelligences artificielles, pour l'instant, il n'y en a aucune qui est capable de sortir quelque chose d'indiscutable, quelque chose qui soit vraiment synonyme de qualité. Je n'en connais pas à l'heure actuelle. J'ai peur de refaire ma mars 2003, vous saviez, où je vous disais « c'est bon, vous voyez bien que c'est pourri, GPT-3, ça vaut rien, vous inquiétez pas ». Non, ça va arriver, la qualité, c'est certain. Mais nous, on pourrait être ceux qui la vendent avec l'intelligence artificielle et avec l'architecte de contenu. Pour moi, 2023, c'est la naissance de l'architecte de contenu. Est-ce que le nom va changer ? J'en sais rien, mais ce nom a un avantage. Il légitime l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est notre métier. Nous devons, par contre, en savoir beaucoup plus sur l'architecture de contenu et pas nous contenter d'écrire. Les rédacteurs qui viennent pour écrire parce qu'ils aiment écrire, il va falloir changer d'objectif. Il faudrait que vous aimiez communiquer. D'accord ? C'est pas exactement la même chose et ça ouvre tous les autres champs parce qu'il va les falloir, ces autres champs. Je veux pas vous faire peur. Il y aura toujours des gens pour commander des textes écrits à la main par des humains parce qu'ils ne font pas confiance à des machines. Mais plus va passer le temps, plus la machine va convertir ces gens, c'est-à-dire les convaincre d'utiliser la machine pour des raisons économiques ou parce qu'elle aura fait la preuve de son efficacité. Il y a des prompts qui se distribuent à longueur de temps. Les gens, il suffit qu'ils testent. D'accord ? C'est juste ça ce qui change. Je veux dire, il y a carrément aujourd'hui des services qui proposent d'utiliser GPT-4 pour faire des thérapies. Les psychologues, je les ai vus il n'y a pas longtemps, faire des discours sur les réseaux sociaux pour expliquer que non, ça n'est pas pertinent d'utiliser GPT-4 pour faire une thérapie. Il n'est pas pertinent pour ça. Ils essayent de se défendre parce qu'ils perdent des clients, eux aussi. Les psychologues. D'accord ? Je ne parle même pas des médecins. À l'heure actuelle, le gouvernement français essaye de développer une intelligence artificielle capable de faire des petits diagnostics. Et je vous jure que j'utilise déjà GPT-4 pour ça. D'accord ? Il y a quelqu'un qui s'est défoncé le doigt il y a 2 jours, 3 jours autour de moi, dans ma famille, et il m'a demandé qu'est-ce que je dois faire. C'est un de mes neveux. Qu'est-ce que je dois faire ? Et je lui ai dit, attends, j'ai dit à ChatGPT, voilà la situation, voilà à quoi ça ressemble. Je lui ai mis une photo de son doigt. Je lui ai dit, voilà la photo, parce qu'il lit les photos aussi. Et je lui ai dit, maintenant, dis-moi ce qu'on fait. Et il m'a dit, faites les tests suivants pour vérifier si le doigt est cassé. On a fait les tests, il n'est pas cassé. Il a dit, bon, dans ce cas-là, il est enflé parce qu'il a été heurté. Il vit un traumatisme, il va se guérir de lui-même, on va lui donner 2 jours pour ça, il va prendre, le neveu, il va prendre des anxiolytiques, pas des anti-inflammatoires, pardon, il va prendre des anti-inflammatoires, il va mettre de la pommade, il va mettre un petit bandeau, il va éviter de toucher à son doigt pendant 2 jours, et si jamais, 2 jours après, il n'y a pas de progrès notable, on file voir le médecin pour dire qu'il y a un problème. Ben ça, c'est quoi, 50% de perte chez les médecins, ce genre de bobo. 50% de perte. Et actuellement, la Sécu française veut généraliser ça en disant, mais imaginez une application sur tous les téléphones portables qui soit hyper fine-tunée, c'est-à-dire fine-tunée, c'est entraîner massivement sur des contenus médicaux et qui soit capable de faire des diagnostics de qualité sans, de manière autonome. Alors c'est un idéal, il faut le peaufiner, l'améliorer, le contrôler et le retravailler, mais il faut bien qu'on se mette en route. Mais l'idéal, c'est que nos téléphones qui sont installés aujourd'hui dans 95% des foyers fassent le boulot des médecins sur tous les trucs de base. C'est des centaines de millions d'économies par an pour le gouvernement. C'est aussi l'affaiblissement encore des médecins, c'est aussi... Enfin bref, là, ça a un impact chez tout le monde, d'accord ? Donc, la civilisation change. Encore une fois, c'est des esclaves gratuits. Donc, tout le monde se demande comment on peut les utiliser pour économiser de l'argent, c'est le premier réflexe. Et vous le faites aussi, hein. Me baladez pas, vous le faites aussi. Moi, dernièrement, je dicte dans un logiciel qui s'appelle Mac Whisper, qui existe sur Mac, mais il y a des versions PC sans aucun doute. Je dicte, je parle, speech to text, il écrit, et je lui raconte tout ce que j'ai en tête sur ce que je dois faire, ce qui est important, les choses, tout, vous savez, ouais, ça. Et après, il m'en fait une to-do list. Et c'est hyper pratique. c'est génial. Et il me les classe même selon la matrice d'Eisenhower. Mais bien sûr, pourquoi pas, ce qui est important et urgent, ce qui est important et pas urgent, ce qui est urgent et pas important, et ce qui est pas important et pas urgent, allez hop, comme ça je m'en sors tout de suite. J'ai juste besoin de vider mon sac, et j'ai quelque chose qui classe automatiquement. Pourquoi vous voulez que je m'embête ? Je le prends ce truc-là, ça me coûterait... Enfin, je veux pas embêter Fleur qui a déjà la tête sous l'eau avec tous les trucs à faire en fin d'année. Donc, même si c'est mon assistante et mon bras droit, ça reste quelqu'un qui n'a pas de temps pour ce genre de choses. Donc si je peux, moi, m'occuper de ça grâce à ChatGPT, ça m'évite d'engager quelqu'un d'autre pour organiser les choses. Fantastique. Allez, on y va, je prends. Et ça, vous le faites, je le fais, tout le monde le fait. OK ? Et on le fera à chaque fois. L'application gratuite, vous la prenez, mais vous ne prenez pas l'abonnement payant qui permet d'avoir les fonctions, même si c'est des fonctions qui vous simplifieraient la vie. On est des rats, OK ? On est des rats. On est une société de rats. Donc, maintenant qu'on a les intelligences artificielles qui viennent et qui bossent quasi gratos pour nous ou pour des tout petits forfaits, bien sûr qu'on va le prendre. Bien sûr qu'on va en profiter. Donc, puisque le monde est inéluctablement entraîné vers les intelligences artificielles, le bilan de cette année 2023, c'est que la transformation est actée. C'est acté. Il faut continuer le chemin. Et moi, mon nouvel objectif pour 2024, c'est d'enseigner à tous mes élèves, que ce soit ceux qui prennent la formation en autonomie, qui est plus tout à fait en autonomie, puisqu'il y a des masterclass et des mentorats tous les mois, maintenant gratos et à vie intégrés dedans, pour la formation, mine de rien, la moins chère de France, vas-y ta mère, 250 pages de cours et 35 heures de vidéos, plus un groupe Facebook avec une masterclass et un mentorat chaque mois. Voilà, 200 balles. Payable en 4 fois, hein, 50 balles par mois. T'as mieux à dire parce que je fais des efforts là. Hein. Et de l'autre côté, le cercle en lui-même qui va essayer d'accueillir le plus possible des rédacteurs. Oups, je vous ai dit qu'il y avait 50% en ce moment jusqu'à Noël sur tout ce que je vous propose. Là, les 200 balles, c'est plus que 100 balles. Et le cercle des rédacteurs qui est aussi aux alentours de 200, même chose, 100 balles. Pour une année avec 4 événements par mois, une masterclass sur la prospection, une masterclass sur l'intelligence artificielle, un atelier sur l'intelligence artificielle, plus encore des groupes, ça s'appelle pause conseil et stratégie, ça permet à n'importe qui de venir parler boulot et de venir quémander quelques conseils bien utiles pour pouvoir réussir. L'objectif du cercle des rédacteurs aujourd'hui, c'est ça n'est plus grandir ensemble. J'arrête avec ça. Ça m'est venu ce matin. Je me suis dit, mais en fait, c'est une vieille promesse. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de parler de grandir ensemble. On n'est plus en train de grandir, on est en guerre. Donc maintenant, c'est réussir ensemble. Le cercle des rédacteurs est là pour que les rédacteurs réussissent cette foutue transition que 2023 nous a donnée. C'est ça, le bilan. D'accord ? Tout a été transformé, les règles ne sont plus les mêmes. C'est la panique complète. Mais les opportunités sont dingues. Vous pouvez, à vous tout seul, remplacer une agence entière aujourd'hui. Pourquoi vous ne voudriez pas faire ça? Bon, allez, j'en ai fini, je vous ai pris trop de temps dans votre vie. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Je ne suis pas sûr d'enregistrer un truc avant Noël. Donc, de merveilleuses fêtes de Noël. Si vous ne pouvez pas faire de cadeaux parce que vous n'avez pas d'argent, faites des intentions, c'est tout aussi fort. D'accord, offrez des objets que vous possédez. C'est un truc que je demande à ma famille de faire maintenant. C'est offrez des objets que vous possédez, fabriquez quelque chose de vos propres mains, écrivez quelque chose de vrai et sincère, ou achetez un objet d'occasion ou un objet neuf. Du moment qu'il y a une intention, le cadeau est là. Donc, dans la panique, allez-y à fond et profitez de Noël avec toutes les meilleures intentions du monde. J'ai envie de finir ça comme ça. Et pour Nouvel An, c'est pareil. Bonne chance à vous, amusez-vous. 2024, c'est une année de défi, mais c'est une année de progression, c'est une année de transformation. Ne résistez pas forcément à cette idée d'investir du temps dans de la transformation. Je serai là avec vous pour vous donner les meilleurs conseils pour qu'on puisse continuer ensemble. Que vous soyez dans le cercle ou à l'extérieur, nous, on est là pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.